Quand le Lacan il dit il n'y a pas de métalangage, c'est il est faux. Il est faux. Il y a du métalangage, c'est dire il est faux qu'il n'y a pas de métalangage. Hein? Et dire que c'est pas une sortie, il est faux qu'il y ait métalangage. Bon. Et vous voyez bien que dans cette histoire de métaphore et de métonymie, d'ailleurs le fait de faire une rhétorique, c'est un exercice de métalangage, le fait d'écrire une rhétorique. Et puis faire de la grammaire, bon, et vous voyez bien que dans l'histoire occidentale, depuis la Méditerranée, l'écriture, bon, il y a un moment où dans le monde chrétien, à partir de Rome, la langue latine, eh ben, on a voulu en faire un métalangage. Hein? Et là, je vous renvoie, si vous voulez, si vous voulez éprouver dans un très beau texte, un des plus beaux textes, d'après, par exemple, même ce crétin d'Ezra Pound, il est un peu insupportable, cet Ezra Pound, mais enfin, quand même, il connaît beaucoup de choses. Donc, dans l'ABC de la lecture, il le cite et il dit que le texte de Dante, c'est le plus beau, le plus bel ouvrage de poétique qu'on ait jamais écrit. Ça s'appelle de l'éloge de la langue vulgaire. Dante a écrit un petit essai pour faire l'éloge. Vous le trouvez ça traduit en français dans la Pléiade des œuvres complètes de Dante. Lisez ça. Il y a trois parties, mais au début, il énumère toutes les langues de l'Italie, de chaque région, et il en parle en faisant de l'éloquence en langue vulgaire. Donc de l'éloquence en langue vulgaire, il compare les différentes façons de parler et d'écrire dans les différentes régions italiennes, dans les différents états, les villes. C'est là qu'il dit des choses assez amusantes. Il nous apprend par exemple que les Romains, ils parlent très mal. Nous, on ne s'en rend pas très bien compte parce qu'on ne lit pas le latin, on lit le romain local, dialectal. Et ensuite, il esquisse une poétique. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que justement, avant d'écrire la Divine Comédie en italien, Dante a éprouvé le besoin d'écrire cet éloge de l'éloquence en langue vulgaire. Donc il fallait bien montrer que même nous, les latins, enfin les vulgaires du monde latin, on n'était pas des nègres et des noirs et des papous, et bien pourtant, on a considéré que c'était comme des sauvages, vous voyez le mot sauvage, moi je pense qu'il a changé de sens avec le discours, comme des primitifs, ou comme des sous-développés, ou comme des préjugés. Vous voyez, ça va très bien. Il faut vous rendre compte que le latin s'est imposé, donc c'est pas étonnant qu'aujourd'hui on ait encore du mal à faire entendre que même ce qu'on appelle les malades mentaux ne sont pas des gens qui sont malades, ils sont mentaux peut-être, mais ils ne sont pas malades. Ils sont différents, ils sont dans un style, ils sont dans des aphasies, ils sont dans des figures qu'ils emploient à leur manière et qu'on a tort de négliger. La psychanalyse, c'est la seule discipline qui... Vous n'avez qu'à voir Lacan. Moi, tout ce que j'enseigne ici, ça repose là-dessus. Hein? Lacan, il le dit très bien dans l'agressivité en psychanalyse, thèse numéro 4, il dit qu'il y a des patients, il était psychiatre, il y a des patients qui disent qu'il s'est passé quelque chose. Alors, tout de suite, on dit non, Lacan, il prend ça au sérieux, il y a des gens qui disent qu'il s'est passé quelque chose. Alors, depuis, on a amélioré le truc, parce qu'il y a des... Moi, j'ai entendu ça chez des jeunes gens que j'ai connus, qui avaient à peu près le même âge que moi, puis qui nous racontaient qu'un jour, ils avaient pris un peu plus de LSD que la veille, et puis que là, le monde avait changé pour eux. Alors, il y avait le LSD qui permettait de donner une explication encore positive, et ça brouillait toutes les cartes. Mais il n'y a pas besoin de prendre du LSD, ça peut être n'importe quoi. Bon, c'est sûr que la fatigue, l'état physique, c'est pour ça que je vous dis que la psychanalyse, elle n'est pas contre la relaxation, le traitement, que chacun ait son hygiène. Mais ce n'est pas ça qui est important. lisez cette lettre de Hegel qui dit à son correspondant, vous me dites que vous avez du mal à travailler. J'ai connu cette difficulté. On est sur un chemin étroit. On a l'impression qu'on va tomber tout le temps d'un côté ou de l'autre. On n'y arrivera pas. On est pris d'angoisse. On est inquiet. Bon. Lisez cette magnifique lettre de Hegel. Je crois que c'est la 180. Bon, de toute façon, elle est traduite en espagnol sur le site de Topologie en Extension à Buenos Aires. Mais est-ce qu'elle est sur le site? On l'a mis sur le site de Topologie en Extension en français.
Oui.
Alors à etopologie.coafri.fr. Eh bien, vous pouvez lire cette lettre de Hegel, elle est magnifique. Et qu'est-ce qu'il dit Hegel à son correspondant? Il lui dit, écoutez, moi j'ai connu tout ça, prenez des vacances, reposez-vous, donc vous voyez, faites pas du packaging ou du packaging, comment on dit? Packaging. Pour les autistes. Hein,
Packaging.
Emballage. Bon. Et les mecs sur le Minitel Rose et maintenant sur Internet et qui cherchent des partenaires, ils cherchent des partenaires. Moi j'ai des patients qui me racontent ça, ils sont très intéressés, ils ont une hygiène, c'est la leur. Hein. Mais ils aiment bien envelopper d'autres mecs dans du film transparent pour la cuisine, vous savez, pour mettre les trucs dans le congélateur et ensuite dans le micro-ondes. Donc, parce qu'il y a un modèle qu'ils ne font pas dans le micro-ondes. Bon. Donc on n'imagine pas tout ce qu'on peut imaginer comme technique d'hygiène. Donc je dis, si on n'est pas médecin, c'est un peu scabreux. Si on est médecin, on a le droit d'expérimenter ce qu'on veut, mais ce n'est pas de la psychanalyse. Donc moi, je ne suis pas contre l'hygiène. Vous voyez, Hegel, il le dit. Prenez des vacances, reposez-vous. Trouvez votre rythme. Bon. Alors, faites du yoga si vous voulez, mais pourquoi faire du yoga? Alors oui, c'est Manoni, elle disait, oui, les gens à la campagne, c'est bien de leur confier les enfants psychotiques, arriérés, tout ça, parce qu'ils ont du bon sens. C'est sûr qu'ils ont du bon sens. Ça a fait du bien à certains de la ville. Mais je ne sais pas s'il y a un bon sens qui mérite vraiment qu'on s'étale beaucoup là-dessus. Mais c'est vrai que faites-vous votre hygiène. Alors là, personne ne peut vous interdire. De prétendre que c'est la psychanalyse qui va vous indiquer quel est le type de gymnastique qu'il faut faire le matin ou le soir, ça c'est très con. Et ben voilà, c'est ça l'erreur des psys. Ils sont là, ils veulent être dans la compète, ils veulent prouver qu'ils en savent plus que les autres, ils veulent montrer que c'est plus efficace et tout ça. Et donc ils vont faire des trucs. Il faut distinguer. Il faut bien distinguer ces choses-là. Sinon, on va dans le mur, on va dans l'obscurantisme le plus total, avec plein de bonne volonté. C'est ça qui est pathétique. Là, je suis en train de vous parler, par exemple, de la réunion qui va avoir lieu le 17 mars, là, organisée par les 39, au groupe de la psychiatrie. Il y a une confusion quand même très générale. Bon, qu'ils écoutent Uri, qu'ils passent des films de Uri, vous pouvez les voir sur YouTube. Vous pouvez voir que Uri dit des choses très bien. Et justement, il fait preuve de bon sens. Mais en plus, Uri, il est médecin. Et s'il veut, à la borne, à l'expérimenter, il a le droit. Bon, mais ce n'est pas de la psychanalyse. Donc, c'est très curieux, cette confusion. Souvenez-vous ce que Freud est neurologue et Lacan est psychiatre. Alors, vous voyez, Roudinesco, elle dit, oui, lui, il faisait c'était un laboratoire les dernières années de son séminaire avec la topologie. Vous voyez, moi, je ne sais pas si je suis un objet de laboratoire pour Lacan. Il paraît que j'étais dans le laboratoire. Je dis, non, je me connais. Lacan, moi, il m'a dirigé. Justement, d'une manière comme un psychanalyste, c'est-à-dire sans me donner de consignes. Et la seule chose qu'il faisait, qui m'emmerdait bien d'ailleurs, c'est que moi je lui disais, moi je voyais depuis que j'ai eu vos écrits, parce je lui avais demandé de me donner les écrits, à un moment donné, parce qu'il me disait toujours, il faudrait que je vous paye, parce que j'étais censé lui donner des cours de maths à cause de son fils, il faudrait que je vous paye. Alors, moi je ne voulais pas, j'étais ravi d'aller me voir Lacan. Je suis même venu lui dire, je voudrais faire une analyse avec vous. Alors quand il me disait, il faut là que je vous paye, je lui dis, bon écoutez, les premières fois, je lui dis, ben, écoutez, non, ne me payez pas, mais donnez-moi, j'avais pas les écrits, j'avais que les écrits en livre de poche, parce que j'étais pauvre. Hein. Donnez-moi les écrits, donnez-moi ce que vous avez écrit. Il m'a donné deux numéros de Silicet et deux premiers, c'était le 1 et puis le 2, 3, et puis il m'a donné les écrits. Et 10 ans plus tard, je lui ai ramené les écrits pour lui demander de me faire une dédicace. Qui est un piège énorme. Il a dédicacé, disons, à ce cher Vapro. J'espère que ces écrits vous serviront. Est-ce que je fais ça? J'espère que ces écrits vous serviront. Alors, je ne sais pas, comme c'est assez gros, peut-être pour attraper les pots de confiture au-dessus de l'armoire, ça peut me servir, mais ce n'est pas très gros. Donc, je me demande à quoi ça peut me servir. Donc, je suis allé regarder l'étymologie de servir, parce que vous voyez, l'étymologie, c'est toujours intéressant. Le service, ça vient de la protection. C'est protéger. Le berger qui est au service du troupeau, il doit le protéger. Donc, vous voyez, moi, je suis protégé par les écrits. Ça paraît rien comme ça. Mais ça en emmerde certainement un certain nombre parce que je les emmerde, je suis protégé. Mais enfin, vous savez, moi je ne crois pas trop au gris-gris non plus, hein, faut pas exagérer. Je ne sais pas ce que ça vaut comme protection. Mais je ne néglige pas le fait que Lacan m'ait dédicacé les écrits qu'il m'avait donnés en me disant qu'il espérait, lui, il espère, j'espère que ces écrits vous serviront. Et ça me sert à quoi? À faire les dessins que je vous montre, là, à faire tout ça. Alors, Lacan, voyez-vous, il dit la même chose que Jacobson, mais il le dit comme ça parce qu'ici, il a construit une négation qui dit « Il n'y a pas de métalangage. » Il n'y a pas de métalangage. Mais à condition d'avoir reconstruit la négation en question, le « n'y a pas », là, le « n'y pas »,« il n'y a pas », vous voyez, moi je l'écris comme ça, une phrase S comme il y a du métalangage. Si je mets cette négation dessus, ça veut dire il n'y a pas de métalangage. Ça c'est non S. C'est non S. Mais c'est un non spécial, puisque sa définition, je vais vous écrire ça comme ça, regardez, je vais mettre ça, c'est une définition. Le égal est justifié, c'est pas un théorème, c'est une définition. Je définis cet opérateur qui n'existe pas dans la logique classique. De cette manière-là, c'est non classique. Ça, ça dit non aussi. Mais ça, c'est le non classique. Alors, j'ai inventé une autre négation qui est la première négation modifiée. Ça, c'est la seconde. Donc, non classique, non S. Et ce non classique, au lieu de dire non, je le lis il est faux que. Il est faux. Vous voyez? C'est le il est faux qui est ici. Il est faux qu'il n'y a pas de métalangage et il est faux qu'il y a du métalangage. Si vous voulez voir le diagramme de Lerven de ça, c'est comme ça. Voilà. Là, vous avez le sujet et là, vous avez l'autre. En dehors, bon. Hein? Et là, alors attendez, comme j'ai employé le terme S, on va l'appeler S barré. Et ça, c'est le S de la phrase en question. Vous voyez, il y a le S barré et le A barré qui coupent l'espace en deux. Et S, eh bien ici, vous avez la négation classique. Vous savez que c'est tout ce qui est en dehors d'un cercle, tout ce qui est en dehors d'une zone. Donc, la négation, la première négation, la négation modifiée, c'est celle-ci. Non S, c'est juste cette zone-là. Et S bar, c'est cette zone-là. C'est les deux zones qui sont en dehors de S, qui sont deux négations non classiques. Celle-ci, la première, et celle-ci, la deuxième. Et elles sont liées par cette relation. C'est pour ça que c'est une définition. Vous voyez, ça veut dire. Alors, qu'est-ce que c'est que non S? Non S, c'est égal à A barré, non, c'est égal à S barré, inter. Non S classique. C'est dans la négation de S, c'est la partie qui est dans S barré. Et S bar, c'est A barré, inter, non S classique. Donc il y a trois négations. Vous voyez, dans cette phrase, il y a trois négations. Une, deux et la classique. Et la classique n'est plus une négation, elle dit pas simplement non, elle dit il est faux que. C'est une question modale. Alors ensuite, si vous faites un peu d'algèbre de Boole ou un petit peu de diagramme de Lerven ou un peu de inspiré par la théorie des ensembles, vous verrez que ces deux définitions que je viens de vous donner plus la définition non S classique. Hein, quand vous avez S, si vous avez S comme ça, non S, c'est tout ce qui est autour. D'ailleurs, vous voyez que non A, dans cette écriture-là, c'est égal à non S barré. C'est tout ce qui est en dehors de, S, de ce S barré. Le A, c'est ça et ça. Alors que S, c'est ça et ça. Bon. Enfin, tout ça, vous pouvez le retrouver sur Internet. Je l'ai écrit 5 ou 6 fois. Il y a les définitions. Dans l'amour du tout, aujourd'hui, c'est un peu long. Il y a un amour qui n'en finit pas. Mais dans les formules de la sexuation, dans la lecture que je fais des formules de la sexuation, c'est résumé d'une manière assez succincte. Et ce qui serait intéressant, c'est de me poser des questions, au lieu de me dire tout le temps, vous allez nous expliquer l'involution signifiante. Bon. Ça, c'est une façon d'écrire la répétition freudienne. C'est écrire que la transmission, c'est quelqu'un dit quelque chose à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre dit qu'elle le répète à une deuxième personne. Les animaux ne font pas ça. Les abeilles ne font pas ça. Les abeilles, elles dansent, et s'il y a une retardataire. Alors nous sommes capables de. Alors je vais employer un mot grossier, je vais vous dire de régresser. Est-ce qu'on régresse ? On ne sait rien si on régresse. On ne pourrait pas aller trop vite avec les mots comme ça. Nous sommes capables de devenir cons, on va dire. Ça veut dire, c'est Freud le note. Hein. En foule, dès qu'on est en foule, il y a un abaissement de l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi ? Interliguer, lire entre les lignes. C'est justement être. Entre les lignes de il est faux qu'il y ait du. Hein, il y a du métalangage et il n'y a pas de métalangage, ce n'est pas une sortie. Il est faux qu'il n'y ait pas de métalangage, il y a du métalangage et il est faux qu'il y ait du métalangage, ce n'en est pas un. Le latin n'est pas une. Vous voyez, donc lisez Dante par exemple. L'involution signifiante, c'est cette structure du langage qui fait que. Eh bien, si on est en foule, on peut très bien redevenir très con, comme dans un code. C'est l'exemple qu'on a en général des élèves. Vous voyez, dans une classe, là, en ce moment, je suis en train de faire le gros, là, je parle, donc, je suis en train de manifester la fonction imaginaire du phallus symbolique. Je fais le beau. Donc, il y a cette connerie qui existe, qui est là aussi. Bon, je m'excuse, j'essaye, je dis toujours de ne pas rendre ça trop obscène. Ça existe. Bon, on est des bêtes. Mais ça ne veut pas dire qu'on est des bêtes, que des bêtes. C'est ça l'ennui avec la résilience de cet escroc-là. Vouloir détruire cette structure, l'effacer comme un bon paranoïaque. Hein. C'est ça la forclusion. La forclusion, c'est rejeter ceci et vouloir détruire tous ceux qui sont les sujets de cela. Les Juifs, les Japonais en premier. C'est les peuples de l'écriture et de la lecture. Et surtout de la lecture. C'est la lisibilité. Il faut que tout soit écrit, codifié, noir sur blanc, hein, le service compris sur le ticket, pour le paranoïaque, c'est ça. C'est donc ramener tout le langage à la communication. Et vous voyez qu'aujourd'hui, hein, ça y va d'un point de vue industriel. Hein. On vous en parle, là, où bien même on a mis un truc, ça s'appelle .com un peu partout. Hein. Ils n'ont pas mis .trans, parce que ça pourrait vous dire .transfert, psychanalyse. Non, ils n'ont pas. Moi, je vais créer un genre. Ça sera. On va faire topologie, e-topologie, .trans. On va voir ce que ça leur fait. Voilà ce qu'il faudrait faire. Alors, Freud le dit, en foule, le niveau intellectuel baisse. C'est ça. C'est pour ça qu'il peut faire la théorie des foules et la théorie du moi. C'est pas une question de moi, c'est une question de sujet. La transmission. Alors, qu'est-ce que c'est que le plus pur de la transmission ? Eh bien, c'est justement la fameuse métaphore, mais c'est surtout le mot d'esprit. Et Lacan, c'est pour ça qu'il va inventer la passe, en disant, c'est le modèle du mot d'esprit. Qu'est-ce que c'est que la passe ? Qu'est-ce que c'est que la transmission ? Vous êtes sûr qu'il y a transmission quand vous racontez quelque chose à quelqu'un, et c'est justement ce qui ne se passe pas avec mon enseignement, bizarrement. Celui qui entend ça, il ne peut pas s'empêcher d'aller le répéter à quelqu'un d'autre. C'est ça la transmission, c'est le mot d'esprit. Hein? Qu'est-ce que c'est la tierce personne, je ne me moque pas assez de la tierce personne. Moi, les gens me disent, moi, j'ai écouté ce que vous dites, je trouve ça formidable, je comprends tout quand vous parlez. Il y a un mec de Lille qui me raconte ça très gentiment. Il me dit, mais quand ensuite j'ai des copains, j'ai des amis qui me disent, qu'est-ce qu'il a raconté, Vafro, je suis incapable de leur répéter. Donc, c'est un des mérites de mon enseignement, c'est que ça ne se transmet pas. Mais peut-être que ça se transmet quand même, parce que la parole, ça se transmet beaucoup mieux que l'écrit. C'est pour ça que l'avant dit que l'écrit, c'est pas à lire, que l'argument de la transmission, c'est la parole. Mais peut-être qu'il faut un certain temps d'incubation. D'accord, il dit, lisez la postface au séminaire les fondements de la psychanalyse de 64, dans la première édition, il écrit une postface dans laquelle il semble faire un compliment à son genre, en disant la modestie, je dois à la modestie de M. J.A. Miller, qui a dit qu'il faisait une transcription. Maintenant, il dit qu'il est l'auteur du séminaire. C'est intéressant. Là, à l'époque, il disait transposition, il a compris. Transposition, voilà, il dit, bon, ben, et ben, et là, il dit une méchanceté, une vacherie. Il semble lui faire un cadeau, puis on remonte, c'est différent, toujours avec Lacan, c'est une vacherie. Il dit mais même si la transcription est pourrie et mauvaise, ça passe. Quand ça a été dit, ça passe. La parole joue. Là, c'est vraiment ce qui est le plus spécifique avec la vérité, hein, de la parole. C'est la transmission. Alors la transmission, ça demande quand même, ça a des conditions. Mais la structure du langage, c'est que justement. C'est la répétition, c'est la transmission. Mais la répétition, ce n'est pas seulement la répétition chronique, ce n'est pas le fait que ça se répète seulement d'une manière chronique, hein, comme une sorte de récurrence, comme la suite des entiers, vous voyez, une matière purement métonymique. Cette répétition, elle est à la fois métonymique et métaphorique. Elle est à la fois développement, comme les entiers, 1, 2, 3, les axiomes de Peano, et le successeur, on partait de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis à un moment donné, hop, ça se replie, et il y a quelque chose qui a l'air de faire le contraire. Ouais, moi, je vais vous raconter une histoire drôle, justement, une blague, on voit si ça marche. Je ne sais pas si vous la racontez. Au moins, elle a le mérite de bien révéler dans ce livre. C'est l'histoire d'un type qui vend des voitures et qui. Des voitures, et il trouvait pas de travail. Ben, il a dit à sa femme, j'ai pas de boulot, ça je cherche un boulot. Il vend des voitures, donc il cherche une société qui l'engage comme marchand, comme vendeur de voitures. Et finalement, il finit par se faire engager chez Peugeot. Alors, le premier jour de son travail, il va chez Peugeot dans le magasin, il s'habille bien, vous savez, les marketing, quoi. Et donc, il va chez Peugeot, puis il parle avec les clients, et alors il est tout le temps en train de parler des voitures pigeotes. Il parle des pigeotes. Les clients disent trop rien, hein, bon, mais au moment de signer l'achat d'une voiture pigeote, ils disent au patron de la caissière, ils disent, c'est curieux, votre employé, là, votre. Il est très bien, hein, il est très très bien, il nous a fait l'article, on est très content, on achète la voiture, mais c'est marrant, les voitures, il les appelle des pigeotes. Alors, le patron apprend ça, et à la mi-journée, il appelle le gars et il lui dit, venez voir un peu dans son bureau, il dit, écoutez, il paraît que vous n'avez pas encore attrapé le coup, mais vous le savez. Nous ne vendons pas de pigeotes, mais de Peugeot. Ah bon, il dit oui. Mais l'employé dit oui, mais je le sais. Oui. Ah bon, très bien, alors. L'après-midi continue, il passe l'après-midi, et quand il y a des clients, il ne parle des pigeotes. Donc le soir, le type lui dit non, ben, écoutez, c'est pas possible, je ne peux pas vous garder. Je ne peux pas vous regarder, vous ne pouvez pas continuer à vendre les voitures dans vos magasins parce que c'est insupportable, c'est impossible. Alors il rentre chez lui le soir et il parle avec sa femme, il dit, ah, quand même, merde. Il dit, oh, c'est terrible. Parce qu'elle lui demande, non, comment ça s'est passé la journée? Il dit, oh, ben, ça s'est passé très très bien. Sauf qu'ils ne veulent pas que je continue demain. Ah bon, dit la femme, quand même, il a dû se passer quelque chose. Il dit, non, il ne s'est rien passé, je te promets, j'ai vendu des voitures, les clients étaient contents, mais le patron avait l'air pas très content, et je comprends pas pourquoi, parce que il a dit qu'il ne voulait plus que je continue, mais j'ai perdu mon boulot. Enfin, quand même, il va y avoir quelque chose dans le livre, type, il dit, non, il a, je te promets, j'ai vendu des voitures, ça marche très vite. Alors, la femme insiste, et le type dit, peut-être, Marc, peut-être que c'est quand même, il y a un truc quand même, il s'est peut-être passé la même chose que chez Fiot. Alors, vous voyez, je trouve qu'elle est parfaite, celle-là, parce qu'elle est justement de l'ordre de ce qui se transmet. C'est exactement ça. Le sujet, ça, c'est une forme d'aphasie. Hein, c'est une histoire d'aphasie. Mais le sujet n'entend pas. Bon. Donc alors, ça peut porter sur la parole, ça peut porter sur l'écriture, mais c'est vraiment... On martyrise tous les enfants de la Terre avec ça, parce que c'est vraiment le... Ce sont les conséquences du narcissisme. C'est la psychanalyse. Là, elle est dans son affaire. Hein. Un mec comme ça, c'est un analysant formidable. Enfin, il n'y a que la psychanalyse qui, pour lui... Moi, j'en ai. Alors là, je vous raconte cette histoire parce que c'est une histoire drôle. C'est une histoire. C'est un chisté, c'est un bon esprit, mais moi, je connais des histoires. Si jamais, d'aventure, je devais écrire des articles sur les gens qui viennent me voir, ce que je fais jamais, je parle de ma clinique à moi, c'est-à-dire de mon analyse à moi, mais pas de celle des autres. Je les m'écris, hein. Je les m'écris sur la manière de. Une hallucination, la sédation d'une hallucination que j'avais quand je faisais des mathématiques. Ce qui prouve que j'avais bien besoin de psychanalyse. Mais j'avais pas besoin, parce qu'on n'a pas besoin de la psychanalyse. Mais c'est une bonne idée que de faire la psychanalyse quand on a des emmerdements de ce genre. Eh bien, c'est ce qui est sûr, c'est que je fais jamais ça, mais je connais des histoires qui sont formidable. Oui, mais je ne veux pas les raconter parce que justement, je pense qu'il ne faut pas les raconter dans la mesure où il faut laisser les... Moi, je propose à mes patients qu'ils racontent eux-mêmes leur truc. C'est ça la passe. C'est qu'ils fabriquent une petite histoire drôle, même, et qu'ils voient si ça passe. Déjà, si ça fait rire, bon, ou si ça fait pleurer, vous voyez, c'est que ça passe. Ça fait des effets psychosomatiques. Tout le monde, tous les grands positivistes sont produits par les maladies psychosomatiques. Rire et pleurer, c'est vraiment typiquement ce qu'il y a de plus psychosomatique. Donc la transmission, c'est du psychosomatique intéressant. Mais voyez que c'est pas en allant sculpter les neurones ou la barbaque ou les cellules, c'est plutôt en réfléchissant sur la structure du langage. On rentre dans une clinique et un discours psychanalytique qui est freudien et lacanien, et que bien sûr Freud était médecin, il était neurologue, et Lacan était médecin psychiatre. Ça ne les a pas empêchés de l'un d'inventer et l'autre de fonder la psychanalyse. Alors tout le monde prend ce prétexte-là pour continuer à vouloir maintenir la psychanalyse dans la tutelle de la médecine. Et Lacan en a rajouté, parce que c'est toujours, avec Lacan, c'est toujours la politique du pire, il dit toujours, dans la psychanalyse, il faut toujours en rajouter. Alors, n'essayez pas de négocier pour dire, on va arrêter ça, on va faire... Non, s'il y a des cons et des emmerdeurs, il faut en rajouter. Donc, il y a les médecins qui sont vraiment des connards, quand ils veulent avoir une tutelle sur la psychanalyse, ça s'est vu dans l'histoire. Lacan, il a rajouté les professeurs de philo, c'est avec l'école normale. Je vous signale qu'il l'a fait, c'est une citation encore. Lacan, tout ce qu'il fait comme ça, c'est des citations. Puisque Freud, dans La science des rêves, il le dit explicitement. Quand Wundt lui reproche de parler de l'inconscient et que Freud dit, mais c'est incroyable quand même. Il me dit que l'inconscient, ça ne peut pas exister. Freud ne comprend pas pourquoi. Moi, toute mon analyse, à partir partir de la négation de la modalité de ces différentes négations et de la dénonciation, et de la formule de l'inscrit de la vérité, ça tourne autour de la fonction phallique. Bon, Freud, il ne l'a pas vu directement comme ça, mais il le dit quand même, puisque c'est moi, j'ai réussi à trouver le chemin de ce commentaire grâce à une note qui est dans l'analyse du petit Hans. Hein, c'est l'analyse, dans l'analyse du petit Hans, il y a une note au moment où Hans dit de sa petite sœur qui vient de naître, là, qui est la raison, la naissance de la petite sœur, c'est la raison du déclenchement de la phobie. Il regarde la petite sœur qui prend un bain et il dit elle a fait pipi, il est tout petit, mais elle va grandir, il va devenir grand. Alors Freud fait une note là où il dit trois choses. Cet enfant n'est pas crétin, j'en connais plein d'enfants qui disent la même chose, ils sont, c'est pas des débiles, c'est pas des idiots, c'est pas des malades. Deuxièmement, il dit cette chose qui m'a mis sur la piste, il dit, mais il dit la même chose que les philosophes de l'école de Wundt. Ah tiens, pof, vous voyez, j'ai pensé à ces différents endroits dans son œuvre où Freud parle de cette école de Wundt. C'est dans la science des rêves, dans la métapsychologie, l'article inconscient, et dans l'abstract. Et ça, il l'avait retiré du texte. En français, on l'a remis comme note, mais en espagnol, en anglais, ça y est plus. Nous, on a une chance au plus, c'est en note. Peut-être qu'ils vont bientôt le retirer. Donc, gardez, si vous avez l'abrégé de Freud, traduit en français, gardez-le rien que pour avoir une trace de cette note, où il reprend le même problème en citant Mobius, qui nous a libérés de l'hypnose, bon, de la gégène, de l'électrothérapie. Mais là, il reprend la question de Wundt qui dit qu'on ne peut pas parler de l'inconscient. Et il dit à ce moment-là, les enfants, ils disent la même chose que Wundt. Donc vous voyez, moi je pense que nos savants, Tarski, il dit la même chose que Wundt et que Hans. Il dit la même chose qu'un enfant qui est dans la phase phallique. Ma mère, bon, ils disent ça un peu à cause du narcissisme, ils disent ça, c'est, ils disent, ma mère a un fait pipi, ou ma petite sœur a un fait pipi. Bon. La mère est phallique, comme on va le dire après. Et ensuite, ça, on va embrayer sur les femmes phalliques, les mecs qui ne savent pas s'arrêter, là. Dès que quelqu'un est un peu droit d'autorité, c'est le phallus. C'est vrai, le phallus, c'est pas dans Jacobson, c'est pas dans Kogève, mais c'est le principe de l'autorité, c'est le principe de la parole. C'est cette dimension éthologique de la parade sexuelle. Tout le mimétisme animal, c'est de la fonction phallique. Les crabes qui mettent des boîtes de conserve sur leur dos, ou les caméléons qui changent de couleur, les papillons qui écartent les ailes pour avoir les ocelles, donner l'impression qu'ils sont des grosses bêtes. Il y a une fonction, comme dit Queloy, somptuaire dans la nature, c'est la fonction imaginaire du phallus. Mais justement, elle est transformée par la parole, par le fait de dire, par la vérité. Comment ? Ben c'est ce qu'est en train de dire Freud, là, mais il ne s'en rend pas compte. Il fait le lien entre Hans et Wundt. Et moi, je fais le lien entre Hans, Wundt et Tarski. Et je dis que tous nos savants, aujourd'hui, hein, ils sont... C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que les Indiens d'Amazonie, comme ils l'ont dit à Lévi Strauss, ils ont les yeux écarquillés devant les Européens et les Américains qui sont venus les voir. Ils disent, ils se conduisent comme nos mômes. Les Occidentaux, ils sont comme nos enfants. Hein. Les plus grands savants, ils continuent aujourd'hui encore. Alors c'est pas faire une apologie de l'enfant démago, hein, mais les enfants ils sont dans la phase phallique, et ben les adultes aussi. Le seul moment où l'humanité semble un peu sérieuse, si vous voulez, c'est pendant la période de latence, avant qu'ils deviennent adolescents, la puberté. Dans la période de latence, il semblerait que là, pendant un moment, on oublie cette histoire de mère phallique et de dire que la parole, c'est l'autorité du phallus, et que... mais ils ont raison de le dire en fin de compte. Mais vous voyez, on l'oublie parce qu'on oublie de dire pourquoi est-ce que la parole doit être, quand elle est énoncée, l'énonciation doit être véridique. Moi, je vous prenais même un mathématicien dans la psychanalyse comme Daniel Siboni, quand des gens de Cordoba viennent en. M'invite à dîner avec des gens de Cordoba, là, pour qu'on parle de topologie, parce qu'ils étaient de topologie à Cordoba, en Argentine, plutôt ils étaient proches de l'école lacanienne, là, de la louche, de la psychanalyse. psychanalyse à la louche et de le gaufrer. Siboni, il m'entreprend sur ce thème. Il me dit, mais c'est quand même extraordinaire, il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on dit toujours la vérité? Évidemment qu'on ne dit pas la vérité. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise, moi? Je lui dis oui. Bien sûr qu'on ne dit pas la vérité. Mais n'empêche que il y a quelque chose qui s'appelle l'énonciation et qui fait que quand on parle, pendant un quart de seconde, c'est ce qui permet au monstre de venir des métaphores, de venir des figures du discours qu'on admire. C'est pendant un quart de seconde, celui qui entend, il commence par entendre ce qui est dit comme vrai. Tout de suite, les esprits forts, c'est leur spécialité, ils vont dire le contraire. Hein. Ils vont tout de suite dire, ah, mais s'il dit ça, moi je vais penser le contraire, parce qu'on va voir si ça marche ou pas. Moi j'appelle les esprits forts, c'est pour moi c'est ceux qui sont déjà en train de critiquer ce qu'ils sont encore en train d'apprendre. C'est la définition de Vico. Déjà en train de critiquer ce qu'ils sont encore en train d'apprendre. Mais si vous mettez en question l'énonciation, mais que vous ne vous précipitez pas à dire que c'est du pipeau tout ça, ben là vous avez un espace qui s'ouvre qui s'appelle la phase phallique, ça s'appelle sexe. Et là-dedans, vous allez voir se développer toute cette histoire, cette différence entre la communication et la transmission. Et c'est érotique. Alors bien sûr, c'est très marqué par l'image du corps avec le narcissisme, puisque le trauma, la découverte de cette énonciation, le malentendu des parents, qui révèle la dimension énigmatique de la parole, plus l'incorporation qui nécessite justement la honda, les incorporels, pour faire tenir le corps et le langage. Et ces deux ingrédients qui donnent la psychose, l'arriération des enfants qui restent arriérés, l'autisme se fixe dans cette période qui s'appelle trauma, c'est justement le trauma ne marche pas comme trauma. Le sujet n'est pas épaté et puis ou bien il ne veut pas rentrer dans ce jeu politique de la parole et du mensonge et de la vérité. Il reste en dehors, sans doute parce qu'il est mal élevé. À mon avis, ça tient au discours de la famille. Moi, j'ai toujours vu qu'il y avait la famille. Mais moi, je ne fais pas de la sociologie. Maintenant, je m'intéresse à la façon dont on pourrait parler de ça sérieusement. Ça, c'est de la psychanalyse. Et c'est pas la peine d'envelopper des enfants autistes dans des draps humides. Mais par contre, on peut très bien, comme je vous le dis,